Bonjour chers auditeurs de Radio Silence, voici l'actualité religieuse de la semaine. Turquie, Suède, Fraternité Saint-Pédis, Benoît XVI et Russie. Turquie. Nous avons pu rassembler, communique l'UNEC, 6 000 euros pour les catholiques d'Iskenderun en Turquie, dont l'évêque Mgr Luigi Padovese, vicaire apostolique d'Anatolie, a été égorgé par un islamiste le 4 juin 2010 et avons transmis ce don le 14 novembre via les nonciatures apostoliques de Paris et d'Ankara pour acheminement jusqu'à Iskenderun en Turquie du Sud. Voici ce que nous avait répondu le nonce à Ankara, notre ami Mgr Antonio Lucibello, dès le 6 octobre 2010. J'ai trouvé votre aimable message concernant l'annonce d'une aide très appréciée de plusieurs milliers d'euros de votre institution UNEC pour la petite communauté catholique du vicariat apostolique d'Anatolie, dont le siège se trouve à Iskenderun. Votre signe de solidarité m'a profondément touché et je suis sûr que même le feu évêque Padovese ne restera pas indifférent, mais bien au contraire, il priera selon vos intentions. Dès réception, j'acheminerai le don à l'administrateur apostolique du vicariat. En vous réitérant encore une fois mon remerciement, veuillez accepter mes hommages fraternels. Signé Antonio Lucibello, nonce apostolique Ankara. Fin de citation. Et le 19 novembre, continue le communiqué de l'UNEC, après transfert de la somme de 6 000 euros, collectée pour 2/3 des amis de l'UNEC en France et pour 1/3 de nos amis de l'Archiconvent der Templer à Munich, ce même nonce nous écrit ses simple ligne pleine de gratitude. Je cite « Merci bien pour votre initiative très louable, pour manifester combien vous êtes proche du Pusillus Grex d'Iskenderun, après la tragédie que personne n'aurait soupçonnée. Je ne manquerai pas de transmettre à l'administrateur apostolique du vicariat d'Anatolie à Iskenderun votre donation. Veuillez agréer mes hommages toujours dévoués. Signé Antonio Lucibello, nonce apostolique Ankara. » Fin de citation. Merci, chers amis en France et en Allemagne, continue le communiqué de l'UNEC, d'avoir participé par votre don à notre action fraternelle entre catholiques face à nos frères et sœurs dans la foi qui se trouvent en première ligne sous l'attaque violente islamique qui dure déjà 13 siècles et s'intensifie toujours. Permettez-nous de rappeler que, par suite au bain de sang perpétré par les islamistes à Bagdad, en Irak, le 31 octobre dernier, laissant 57 morts et 80 blessés entre les fidèles, et aux 13 attentats commis à Bagdad le 11 novembre contre différents chrétiens à Bagdad, 6 morts et 33 blessés, nous avons démarré une nouvelle action de don fraternel. Selon notre principe, les larmes de crocodile ne servent à rien dans le royaume de Dieu. Cette fois-ci, notre aide est destinée au Petit Carmel, au centre même de Bagdad, que nous avons déjà pu aider à 2 reprises, en 2003 et en 2005. Vos premiers dons sont déjà arrivés à l'UNEC, mais nous attendons encore plus d'aide de votre part, s'il vous plaît, pour pouvoir transmettre, par des chemins fiables et déjà expérimentés, cette somme vers Noël. Vos chèques, s'il vous plaît, à UNEC, boîte postale 70114 95210 Saint-Gratien, en signalant au dos du chèque pour le Carmel Bagdad. Merci beaucoup. Suède. L'UNEC communique de nouveau. Je cite « Notre ami l'abbé Sten Sandmark de la Fraternité Saint-Pédis, ancien pasteur luthérien suédois, consacré prêtre catholique le 26 juin 2010 à Zeitzkofen en Bavière, nous a fait parvenir le message suivant de Bristol, en Angleterre, d'où il organise sa future mission en Suède. Ce message a été lu lors de notre conférence diaporama Suède, pays chrétien et de mission, du 10 novembre 2010 à Paris. Je cite la lettre de l'abbé Sten Standmark. « Chers amis de l'UNEC, je suis heureux d'avoir la possibilité de vous remercier tous pour votre soutien permanent et comme gage de ma gratitude, je regarde le merveilleux calice de 1893, votre cadeau, que j'utilise pour ma messe quotidienne ici à Bristol. » Aujourd'hui, je suis responsable pour les messes et confessions à Taunton et Middlemarch. Je prêche des retraites ici à Bristol et une fois par mois, j'aide pendant 3 jours avec des messes, confessions et conférences à l'école Saint-Michel. J'ai reçu l'autorisation d'organiser une retraite suédoise ici à Bristol pour début février 2011. Ainsi, les Suédois qui, j'espère, vont venir pourront parler suédois pendant leur confession et les conférences seront en suédois. Pendant le même mois de février 2011, je serai en tournée en Suède pour dire des messes à Stockholm, Gothenburg, Malmö et Oskarshamn. J'y entendrai des confessions et ferai des conférences. Peut-être aurai-je mon propre chauffeur pendant ces 10 jours, un Norvégien qui habite avec nous à Bristol. Je préfère aller en voiture en Suède et non pas par avion ou en train. J'espère que la situation en Scandinavie s'améliorera à l'avenir car l'achat d'une maison est plutôt une nécessité, c'est-à-dire une maison à un endroit central, un prieuré. L'endroit le plus central à cet égard est Gothenburg, une ville près du Danemark et de la Norvège. Et pourquoi pas une petite chapelle à Oskarshamn, lieu de mon ancienne paroisse luthérienne. Je vous remercie tous pour vos prières et soutiens et espère vous revoir bientôt à Paris en communion de prière en Jésus par Marie, abbé Sten Sandmark. Fin de la citation. De la lettre de l'abbé. Dernière remarque, continue le communiqué de l'UNEC, l'abbé reçoit volontiers vos intentions de messe avec un don de 20 euros pour sa subsistance. Notre jeune ami Joachim, actuellement en étude en Suède, passera mi-décembre à Paris et pourra amener vos intentions à l'abbé Sten à Bristol, où il se rendra ensuite. À condition que vous fassiez parvenir vos intentions de messe auparavant à l'UNEC, boîte postale 70114 95210 Saint-Gratien. Fraternité Saint-Pédis. Nous venons de recevoir via le site www.dici.org du 20 novembre le communiqué étonnant suivant de la Fraternité Saint-Pédis France, en nous abstenant de tout commentaire, je cite. Le supérieur général, Mgr Bernard Felet, a appris par la presse la décision de Mgr Richard Williamson de révoquer, 10 jours avant son procès, l'avocat chargé de ses intérêts pour se laisser défendre par un avocat ouvertement lié à la mouvance dite néo-nazie en Allemagne et à certains de ses groupes. Mgr Felet a intimé l'ordre formel à Mgr Williamson de revenir sur cette décision et de ne pas se laisser instrumentaliser par les thèses politiques totalement étrangères à sa mission d'évêque catholique au service de la Fraternité Saint-Pédis. La désobéissance à cet ordre ferait encourir à Mgr Williamson l'exclusion de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis. Menzingen, le 20 novembre 2010, abbé Christian Touvenot, secrétaire général. Benoît XVI. Autre déclaration encore plus étonnante, voire totalement déconcertante. Dans un livre réalisé avec un journaliste allemand intitulé « Lumière du monde » qui paraîtra cette semaine, on pourra lire, selon nos informations, ce qui suit. À la question du journaliste, l'Église catholique n'est pas fondamentalement contre l'utilisation de préservatifs, le souverain pontife aurait répondu ceci, je cite, « Dans certains cas, quand l'intention est de réduire le risque de contamination, cela peut quand même être un premier pas pour ouvrir la voie à une sexualité plus humaine, vécue autrement. Il peut y avoir des cas individuels, comme quand un homme prostitué utilise un préservatif, où cela peut être un premier pas vers une moralisation, un début de responsabilité, permettant de prendre à nouveau conscience que tout n'est pas permis et que l'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Mais ce n'est pas la façon à proprement parler de venir à bout du mal de l'infection du VIH. Cela doit réellement se produire dans l'humanisation de la sexualité, aurait déclaré le pape. À vrai dire, cette prise de position est franchement consternante. Le préservatif ne serait donc plus intrinsèquement mauvais? Tous les discours de l'Église à ce sujet jusqu'à présent seraient nuls et non avenants? L'Église se serait trompée? Pire, l'Église aurait donc trompé l'humanité sur la moralité de certaines pratiques très courantes, accablant inutilement les consciences? Elle aurait contribué de ce fait à répandre le sida dans le monde? Elle devrait donc battre son mea culpa, faire des repentances publiques, payer les indemnités à ceux qui, en se conformant à ce discours, auraient contracté le sida et d'autres maladies sexuelles. Déjà, certains titres des médias promettent des beaux jours. ONU SIDA applaudit l'ouverture de B16 sur le préservatif. 24 heures. Benoît XVI retire la capote de l'index. Libé du 20 novembre. Un pas en avant qui ne suffit pas, le Parisien 21 novembre. D'autre part, où est l'implacable mise à nu de la tromperie des défenseurs du préservatif qui berne les gens en sécurité là où, en 3 quarts sur 100, c'est-à-dire 3%, ils présentent des défauts en infectant du sida? Et surtout, où est exactement, je cite, « le premier pas vers une sexualité plus humaine. Si un homme prostitué utilise le préservatif soutenu par le pape, à quand la marque de préservatif approuvée par le Vatican ?» Russie. Bonne nouvelle venant de la Russie, où selon un sondage récent, 60% des personnes se disent « croyant en Dieu ». France, 40%. Le christianisme se trouve aujourd'hui davantage à l'Est européen qu'à l'Ouest, qu'on se le dise. Voici les faits. Le 17 novembre, la Douma, le Parlement russe, a voté en deuxième lecture le projet de loi concernant le transfert de quelque 17 000 églises, monastères et autres bâtiments religieux, parfois avec leurs trésors iconographiques, précise le Figaro du 18 novembre, de l'État au patriarcat russe orthodoxe, volé par Lénine en 1922 quand celui-ci avait ordonné, je cite, « la confiscation des biens de l'Église avec l'énergie la plus violente et la plus implacable qui soit ». Bien sûr, certains sites ont été exemptés, par exemple celui de Souzdal dans l'Anneau d'Or et bien sûr le Kremlin à Moscou. L'Église orthodoxe n'hésite pas à prendre en charge le maintien et souvent la réfection de ces lieux, grâce au nouveau réveil de la chrétienté orientale à la suite du collapse du communisme. On peut maintenant se demander avec raison à quand la restitution des immenses et innombrables biens de l'Église catholique confisqués par la Révolution française et ses spires qui occupent les premières places de l'État jusqu'aujourd'hui. Les gangsters d'État, ils ne sont plus à l'Est, comme on le dit si injustement, mais bien chez nous à l'Ouest. Lux ex oriente. C'était donc l'actualité religieuse de la semaine sur votre radio préférée, Radio Silence. Au revoir, chers auditeurs, et à la semaine prochaine.